En tant que dominicain, j'ai un amour très particulier pour Catherine de Sienne. Dans l'ordre dominicain, on considère toujours qu'il y a Saint Dominique, Saint Thomas et Catherine de Sienne. Cette trinité dominicaine. Dominique, c'est le père, c'est la source. Thomas, c'est celui qui nous donne une doctrine, une sagesse. C'est le Fils, sagesse. Et Catherine, c'est le souffle, c'est l'amour. Et c'est vrai que quand on regarde la vie de Catherine de Sienne, on voit bien que c'est ce souffle qui a animé toute sa vie. Un souffle qui n'est pas son souffle, qui est le souffle de l'Esprit-Saint. J'ai jamais cherché à me représenter comment était Catherine de Sienne. Je crois qu'elle avait une âme très ardente. On ne peut pas en douter, une âme de feu. Italienne, siennoise. Et on sent très bien qu'à Sienne, sa présence est encore là, si forte. Je commence par une anecdote qui m'a beaucoup frappé il y a quelques années, où ça remonte déjà à une vingtaine d'années. Je passais à Avignon. J'avais le temps pour refaire une visite du Palais des Papes. Il y avait là un guide qui était particulièrement éloquent, qui était parti avec son petit accent merveilleux. Il nous a fait visiter le Palais des Papes à sa manière. Puis à la fin, lorsqu'il salue la statue de Catherine de Sienne, il la regarde et il me regarde. Et il dit, ah, Catherine de Sienne, si elle n'avait pas été là, les papes seraient encore ici. Ça m'a beaucoup amusé et intéressé que dans le cœur de cet homme, Catherine de Sienne, c'était celle qui avait rappelé au pape qu'il ne fallait pas rester à Avignon, qu'il fallait retourner à Rome. Ce brave homme ajoutait, ah si elle n'avait pas été là, je serais aujourd'hui le moutardier de sa sainteté. C'est vrai, il y a tout un rôle de Catherine de Sienne très particulier dans ses lettres. Elle n'hésite pas de dire ce que l'Esprit Saint lui fait comprendre. Son amour de l'Église est extraordinaire. Et cet amour de l'Église faisait qu'elle regardait le Saint-Père comme celui qui était le doux vicaire du Christ. C'est son expression constante, le doux vicaire du Christ. Et elle l'aimait, je crois, comme elle aimait Jésus. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas tolérer certains retards, un manque d'ardeur. Elle aurait voulu que le pape ait la même flamme qu'elle, et soit embrasé du même esprit d'amour. Et ce n'est pas cela que je vais regarder, ce rôle, je ne dis pas politique, mais politique dans l'Église. Catherine de Sienne comme celle qui comprenait, malgré sa fragilité, malgré sa faiblesse, qui comprenait qu'elle avait un rôle à jouer dans l'Église, mais pas du tout comme quelqu'un qui se dit qu'il a une mission, non. Comme quelqu'un qui aime l'Église et qui, parce que elle aime l'Église, elle ne peut pas tolérer de rester inactive quand elle voyait toutes les difficultés qu'il y avait dans le gouvernement d'Église, quand elle prenait toutes ces misères du monde dans son cœur et qu'elle les portait avec une telle ardeur. Elle était vraiment la fille de Saint Dominique. Que deviendront les pécheurs? Je crois que dans son cœur, c'était bien ça. Que deviendront les pécheurs? Il y a toute cette ardeur apostolique dans Catherine de Sienne. Et autour d'elle, cette ardeur se montrait d'une façon très particulière, puisque elle était entourée de jeunes gens. Il l'aimait avec une force étonnante. Elle était leur mère spirituelle. Elle les entraînait à être fidèles. Et elle est toujours vers Jésus avec une plus grande fidélité. C'est grand ce rôle apostolique d'une vierge consacrée à Jésus et entièrement consacrée, ce qui lui permettait d'avoir ses audaces et d'avoir cette simplicité. Ce que je voudrais, c'est regarder ce qui caractérise la sainteté de Catherine de Sienne, si on peut dire, et ce qui est le reflet particulier de l'âme du Christ en elle. Tous les saints participent quelque chose de particulier, de la plénitude d'amour qu'il y a dans le Fils bien-aimé à l'égard de son Père. Quand on veut avoir un regard profond sur chaque saint en particulier, on doit toujours essayer de découvrir l'œuvre propre de l'Esprit-Saint en lui. Ce que l'Esprit-Saint a voulu sculpter comme grand artiste de l'amour dans ce saint. Et je crois que l'Esprit-Saint avait une faiblesse particulière pour Catherine de Sienne, parce qu'elle était à la fois si douce, si tendre, si aimante, et en même temps si forte. Rien ne l'arrêtait quand elle savait que c'était Jésus qui l'appelait. Rien ne l'arrêtait. Quel est le caractère propre la sainteté de Catherine de Sienne? C'est une apôtre, mais avant tout, c'est une épouse du cœur de Jésus. Elle est avant tout une vierge consacrée et entièrement consacrée dans tout elle-même. C'est cela, je crois, qui est l'œuvre propre de l'Esprit-Saint en elle. Il y a un passage dans le dialogue, ce fameux dialogue de Catherine de Sienne, où elle est vraiment la fille de Thomas d'Aquin. C'est toute la somme théologique, c'est toute la doctrine de l'Église qui est comme reprise. Et d'une manière féminine, d'une manière tout aimante. C'est pas une théologie mystique au sens propre, mais c'est quand même une théologie mystique. C'est Catherine, sous l'inspiration d'Esprit Saint, qui se laisse porter et illuminer. Et son père spirituel le sait bien. Possédée par la sagesse de Dieu. Un jour, il se trouvait en face d'elle, subitement. Les traits de Catherine ont disparu. Et c'était la présence de Jésus. Il y a eu cette chose mystérieuse dans la vie de Catherine. L'échange de cœur avec le cœur du Christ. C'est évidemment d'ordre charismatique, d'ordre de grâce extraordinaire, mais chez Catherine de Sienne, ça prend cette modalité si simple qu'on comprend que c'est la réalité profonde de l'alliance de l'époux et d'épouse. Le cœur de l'époux possession du cœur de l'épouse d'une manière telle qu'il y a comme un échange de cœur, comme si Jésus avait pris le cœur de Catherine, pour que le cœur de Catherine vive dans le cœur de Jésus, et pour que le cœur de Jésus surtout vive dans le cœur de Catherine. Demeurez en moi, et moi en moi, et vous en moi, c'est bien la réalisation concrète, avec cet élément sensible, cette unité profonde d'amour qui existe entre Catherine et Jésus. C'est vrai, c'est cette unité d'amour qui s'est réalisée de plus en plus et très vite entre le cœur de Catherine et le cœur de Jésus. Et là, je rappelle ce passage du dialogue où Catherine de Sienne, dans sa contemplation à l'égard de Jésus crucifié, parce qu'elle est instinctivement portée vers Jésus crucifié, c'est son amour le plus profond. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Elle reprend cette phrase de Jésus dans son dialogue. Elle montre bien que c'est cette attraction de Jésus sur son cœur qui la fait vivre, qui lui donne tout le sens à sa vie. Elle est polarisée par Jésus crucifié. C'est cela qui est sa vie. Elle n'a plus de vie propre. Pour elle, vivre, c'est vivre Jésus. Je crois qu'en toute vérité, on peut le dire que c'est ça qui la fait vivre, c'est cette attraction profonde que le Christ exerce sur elle. Et alors, dans cette attraction profonde, où elle est tout éprise par Jésus, elle ne vit que de lui. Elle contemple la plaie du cœur de Jésus. Il n'hésite pas, en petite fille bien-aimée du Père, avec toute l'audace que peuvent avoir les petites filles du Père, il n'hésite pas de poser la question au Père, pourquoi la blessure du cœur? Pourquoi, après la mort, cette blessure du cœur? Alors que tout est déjà tellement blessé, abîmé. Pourquoi n'a-t-on pas respecté le cadavre de Jésus? Pourquoi il a fallu ce coup de lance qui n'était pas commandé? Pourquoi il a fallu ce coup de lance de ce soldat? On dirait presque qu'il l'a fait par hasard. Et pourtant, non, c'était selon la sagesse de Dieu. Il fallait ce coup de lance pour blesser le cœur de Jésus de la manière ultime, dernière, pour que toute la révélation s'achève par la blessure du cœur, d'une façon silencieuse, à travers ces dernières gouttes d'eau et de sang. Catherine, qui aime tellement Jésus, et qui aime tellement Jésus crucifié, et qui est tellement attirée par Jésus crucifié, on comprend qu'elle demande alors au Père pourquoi cette blessure du cœur, au-delà de toutes les autres blessures. Et le Père lui répond, c'est ce qu'elle nous dit dans son dialogue, le Père lui répond que c'est la seule blessure substantielle, la seule blessure mortelle, c'est la blessure du cœur. Il fallait qu'il y ait cette blessure pour que Jésus soit la victime par excellence, l'agneau immolé, tel qu'il nous est montré dans l'Apocalypse. L'agneau qui donne tout et qui est victime d'amour. L'agneau pascal, le véritable agneau pascal. Celui qui libère le peuple de Dieu du joug du Pharaon. Et cet agneau pascal donné gratuitement à tous ceux qui veulent le recevoir. Et Catherine était dans le peuple de Dieu et dans la famille de Dieu une des plus ardentes à recevoir ce don gratuit que le Père fait de son Fils, et que ce don aille jusqu'au bout de l'immolation pour bien montrer qu'il était entièrement donné. Il fallait cette blessure substantielle. Et le Père explique que cette blessure ne pouvait pas avoir lieu avant. Si la blessure du cœur avait eu lieu avant, quand Jésus était encore vivant, on n'aurait pas compris la hâte du cœur de Jésus d'offrir lui-même sa vie. On aurait vu uniquement le coup extérieur, violent. On aurait dit que c'était cela qui avait tué Jésus. On n'aurait pas compris que Jésus offrait librement sa vie. Et c'est pour cela que le Père l'aime. Parce qu'il dépose sa vie, parce qu'il pose sa vie librement entre les mains du Père, qu'il lui remet tout par amour pour le glorifier, qu'il lui remet tout comme fils bien-aimé du Père, il lui remet toute sa vie. Aucune blessure ne devait être mortelle pour qu'il puisse hâter l'heure de sa mort. Il a hâté l'heure de sa mort en s'offrant lui-même, en allant vers le Père. Cette grande montée du cri de soif. Il est attiré par le Père. Il y a cette grande extase d'amour qui fait qu'il remet son esprit entre les mains du Père. C'est dans une grande extase d'amour que Jésus est mort. Et cette extase d'amour, c'était son amour de fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Il rejoignait le Père qui l'appelait. Étant mort, il peut y avoir alors ce complément, cet achèvement gratuit. Ce cœur qui a cessé de battre peut encore pleurer. Ce cœur qui a cessé de battre peut encore verser les dernières gouttes de sang par pur amour. D'une certaine manière, c'était inutile puisque ce n'est plus un acte volontaire. C'est plus un acte libre. Il pâtit au sens le plus fort, comme un cadavre peut pâtir, comme un cadavre peut être déchiré au plus intime de son cœur. Ce n'était pas nécessaire pour glorifier le Père et nous sauver. Tout était fait, tout était consommé, et pourtant il fallait qu'il y ait cette surabondance qui se marque dans les blessures du cœur et qui atteigne ce cœur qui a cessé de battre et qui peut encore donner par surcroît les dernières gouttes d'eau et de sang. Comme c'est étonnant, ce surcroît d'amour pour glorifier le Père et nous sauver. Et je crois que Catherine de Sienne a saisi ça d'une façon remarquable. C'est peut-être l'intuition la plus profonde de toute sa vie, de comprendre La sagesse de la croix est une sagesse de surabondance d'amour. Que la sagesse de la croix demandait d'aller toujours plus loin, qu'on ne pouvait jamais s'arrêter, et que toute la révélation s'achevait dans cette blessure, ce geste où Jésus pâtit entièrement. Et par là, il nous fait comprendre, dans le silence de l'amour, toute la force du cri de soif qui s'inscrit dans la blessure de son cœur. Oh, Catherine de Sienne ne dit pas tout cela, et elle le dit quand même. Quand elle reçoit du Père cette révélation que la blessure du cœur, c'est la seule blessure substantielle. Et l'amour demande d'être substantiel. Quand il est un amour divin, il est substantiel. Et donc, il réclame tout. Et pour que tout soit donné, il faut qu'il y ait cette surabondance, cet excès d'amour. C'est, je crois, dans cette lumière-là que nous devons saisir toute la doctrine que Catherine de Sienne nous donne. C'est une doctrine d'amour, c'est pour ça que c'est une théologie mystique. C'est une doctrine d'amour et d'amour surabondant, d'amour qui dépasse tout, d'amour silencieux et d'amour infiniment miséricordieux. Alors, c'est peut-être cela qui est le second aspect de toute Catherine, de toute la spiritualité de Catherine de Sienne, c'est cette miséricorde qui jaillit de cette source surabondante, la miséricorde du Père. C'est la blessure du Fils. La blessure du Fils nous fait comprendre la surabondance du Père, la surabondance de la miséricorde du Père. La blessure du cœur du Fils nous fait entrer dans cette miséricorde du Père. Et Catherine veut être le témoin de cette miséricorde. À l'égard des plus pauvres, des plus misérables, des lépreux, qu'elle montre cet amour et cette miséricorde. Le baiser de Catherine aux lépreux, en face de ce lépreux, elle hésite. On comprend la fragilité de Catherine, sa tendresse, sa sensibilité. En face de ce lépreux, elle a un mouvement d'aversion. C'est humain, c'est instinctif. Elle le dépasse, et elle l'embrasse, elle le baise, elle avale sa lèpre. C'est, je crois, cela qui montre bien. C'est un signe, c'est un geste. Combien elle saisit la miséricorde du Père qui regarde instinctivement ceux qui souffrent le plus. C'est à l'égard de ceux qui souffrent le plus qu'elle est attirée. Les misères physiques et les misères spirituelles. Elle demande à Dieu de lui accorder la conversion de tel ou tel, de ce bandit. Je veux, Seigneur. Ah, c'est le « je veux » de Catherine. Elle sait qu'elle peut dire cela. Parce que, il y a la blessure du cœur de Jésus, victime de propitiation, qui a tout obtenu. Et Catherine sait, en se servant de Jésus comme victime de propitiation, elle peut tout demander au Père. Elle a des droits de petite fille, de petit enfant bien-aimé du Père. Alors elle n'hésite pas à demander avec force la conversion de ceux qui, humainement parlant, semblent incapables d'être convertis, impossibles d'être convertis. Elle n'hésite pas, si cette prière si forte, si tenace de Catherine, avec audace, parce que elle est pauvre, elle n'a rien. Et c'est vrai, il y a une pauvreté de Catherine qu'il ne faut pas oublier, qui là encore la met toute proche de son père Saint-Dominique, qui aimait tellement la pauvreté, et ce qui lui permettait de comprendre François d'Assise. Pauvreté de François, pauvreté de Dominique, pauvreté de Catherine. Nous découvrons là quelque chose de commun dans ces saints. Et c'est ce qui explique comment ces saints ont un cœur si généreux et si miséricordieux. Je crois qu'il faut être très pauvre pour recevoir toute la miséricorde du Père. Parce que si on n'est pas un pauvre volontaire, on ne peut pas vivre de cette miséricorde du Père. On ne peut pas être enveloppé de cette miséricorde. Cette miséricorde ne peut pas nous saisir et nous recréer et nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il faut être très pauvre, ne plus rien avoir à soi pour être capable de recevoir la miséricorde du Père dans ce qu'elle a de radical, de substantiel. Et c'est dans la mesure où on reçoit cette miséricorde du Père qu'on devient source de miséricorde. Catherine a été source de miséricorde pour tous les jeunes qu'elle entourait et pour tous les pauvres qu'elle a vus. Elle a été source de miséricorde pour le pape. Quand elle lui fait des corrections fraternelles, c'est encore un acte de miséricorde que de faire une correction fraternelle, surtout au pape. Parce que c'est pas commode. C'est pas une lettre ouverte. Une lettre ouverte n'est pas une miséricorde. Ce n'est pas une correction fraternelle. C'est une revendication. Et Catherine sait que le pape, c'est le doux vicaire du Christ. Alors, on doit lui rappeler combien on l'aime. Et c'est en l'aimant qu'on peut lui dire tout ce qu'on veut lui dire, avec la véhémence et la force, parce qu'on n'a rien à perdre. Uniquement un instrument de l'Esprit Saint. Un instrument de l'Esprit Saint qui n'hésite pas à laisser passer toute la véhémence et le souffle de l'Esprit. Même quand cet Esprit corrige. Parce que cet Esprit est un Esprit d'amour, alors il corrige pour que ceux qui l'aiment aillent plus loin. Catherine est entrée dans cette correction, ça fait partie de la miséricorde. Cette miséricorde qui l'enveloppe, qui est comme le rayonnement de sa prière si intime, sa contemplation de son horizon. Qui est comme la surabondance de tout ce qu'elle porte en elle, au plus intime de son cœur. C'est encore une miséricorde que de nous donner le dialogue. C'est encore une miséricorde que de nous enseigner. Et Catherine nous enseigne. Et son dialogue continue de nous enseigner. Et Catherine nous aide à découvrir le sens profond de la théologie, de l'amour de la vérité, de l'amour de la lumière. C'est une miséricorde qui est toujours actuelle et qui touche l'intelligence. Et pour ça, c'est pour cela que pour que cette miséricorde soit efficace, il faut qu'on ne heurte pas l'intelligence de l'autre. Et donc, qu'on entre dans une très grande pauvreté, un très grand dépouillement, pour pouvoir être reçu de l'autre. Catherine enseignait magnifiquement. Elle a enseigné le mystère de la très sainte Trinité. Oui, en le voyant au plus intime de notre âme. Elle aime de voir dans l'âme la marque de la très sainte Trinité. Elle n'hésite pas de dire que si on voyait une âme en état de grâce, on verrait la très sainte Trinité. Tellement la très sainte Trinité demeure dans l'âme. Combien la très sainte Trinité transforme toute une âme par la grâce sanctifiante. Catherine sait, de connaissance expérimentale, sous le souffle de l'Esprit Saint, je crois que c'est le don d'intelligence qui est tellement aiguisé en elle, qui fait qu'elle ne s'arrête pas à l'écorce. Elle le dit elle-même, par rapport à la parole de Dieu. Elle nous supplie de ne jamais regarder les choses de l'extérieur, de ne pas s'arrêter à l'écorce, mais d'aller à la moelle, et de saisir la moelle des choses profondément, de saisir la moelle parce que on ne peut vraiment recevoir la vérité que si on va jusque-là, que si on découvre ce qui est à la source de tout. Ce qu'elle dit à propos de la parole de Dieu, qui reste tellement vrai. Quand on reste à l'écorce, on regarde le conditionnement des choses, on regarde les choses secondaires, et on ne voit pas ce qu'il y a de principal. On n'entre pas dans l'intention profonde de l'auteur principal, qui est l'Esprit Saint. Et Catherine, elle est assoiffée de cela, de remonter à la source. C'est bien le don d'intelligence qui nous fait dépasser les apparences. Si intéressantes qu'elles soient, on les méprise pas, on les rejette pas. C'est tout un conditionnement secondaire et on veut toucher quelque chose d'essentiel, de principal, quelque chose d'unique. C'est cela qui l'intéresse, c'est cela qu'elle veut. C'est de saisir dans la parole de Dieu ce qui demeure éternel, ce qui est le reflet du mystère, ce qui nous donne le mystère. Elle le fait par rapport à la parole de Dieu, elle le fait par rapport à l'âme humaine du croyant, du chrétien, qui est le vase d'argile qui porte ce trésor divin de la grâce. Et ce trésor divin de la grâce est le reflet direct, plus qu'un reflet. C'est le mystère de la très sainte Trinité présent dans l'âme, qui alors s'empare de l'âme, s'empare des facultés profondes de l'âme comme la marque des trois personnes divines, qui s'empare de toute la vie divine de foi, d'espérance et d'amour. Et elle aime de considérer que les vertus théologales sont, là on peut dire, comme le reflet des trois personnes divines, comme la marque des trois personnes divines. La foi nous donne cette lumière merveilleuse du Verbe. La foi nous apparente au Verbe. C'est une participation à la lumière de Dieu, dira saint Thomas. Et Catherine dit que la foi nous unit directement à la lumière de Dieu. Elle nous met dans la vérité, et dans la vérité éternelle. Et une intelligence qui est portée et transformée par la foi est une intelligence qui vit dans la lumière. Même si c'est obscur, elle vit dans la lumière. Elle vit dans une obscurité par rapport à elle-même. Elle vit dans la lumière divine. Elle est attirée vers cette lumière. La foi met en nous cette marque du Verbe de Dieu. La charité met la marque de l'Esprit Saint, du souffle d'amour, qui fait qu'au plus intime de notre volonté, il y a cette participation divine à l'Esprit Saint. Par la charité, on est mu par un amour substantiel, personnel. On est mu constamment par l'Esprit Saint d'une motion d'amour, d'une motion qui nous fait aimer, d'une motion qui met en nous cette brûlure de l'amour. Et l'espérance, c'est la marque du Père. Parce que l'espérance nous relie à la miséricorde du Père. Et l'espérance nous permet de nous appuyer de toutes nos forces au Père, à son autorité de Père, et surtout à sa miséricorde de Père. C'est beau de voir les trois vertus théologales dans la lumière de la très sainte Trinité et de les voir dans leur exercice d'amour, les voir s'exerçant divinement en union avec les trois personnes divines. Et ces trois vertus théologales sont reçues dans l'intelligence, dans l'entendement, dans notre volonté et dans notre mémoire. C'est comme ça qu'elle regarde cette emprise, ces trois vertus théologales sur l'esprit de l'homme, sur ce qu'il y a de plus spirituel dans l'homme, sur notre âme créée à l'image de Dieu. Et notre âme créée à l'image de Dieu, elle respire par l'intelligence, par la volonté, par la mémoire, mémoire au sens augustinien, mémoire au sens où tous les désirs de notre volonté sont présents et met en nous ce dynamisme incessant et cette soif d'aller toujours plus loin. Il y a cette respiration profonde de l'âme qui veut vivre son mystère propre, l'image de Dieu. Et cette image de Dieu est attirée par la grâce, est attiré vers la très sainte Trinité elle-même, pour que ce soit le mystère de la très sainte Trinité qui marque toute notre âme au plus intime d'elle-même. Ce dépassement de l'aspect extérieur, du corps visible, du corps sensible, pour atteindre tout de suite l'essentiel, ce qu'il y a de nécessaire en nous. C'est bien le don d'intelligence qui donne la pureté du cœur. Et peut-être que c'est là, nous voyons bien, un des aspects de la pureté du cœur de Catherine de Sienne, pour pouvoir tout de suite être en connaturalité avec l'âme de tous ceux qu'elle voyait, qu'elle côtoyait, elle ne s'arrêtait pas à l'aspect extérieur du corps, elle ne le méprisait pas, elle ne s'y arrêtait pas. Et c'était tout de suite cette présence de la très sainte Trinité au plus intime de l'âme qui l'impressionnait. Troisième aspect où on voit l'influence du don d'intelligence, la pureté du cœur dans son âme. C'était le sens extraordinaire qu'elle avait de la providence. Elle ne cherchait pas, elle ne regardait pas les événements de l'extérieur de manière un peu journalistique, regardant uniquement les apparences, les faits fortuits, les faits extraordinaires. Non, c'était pas ça du tout qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de voir la conduite de Dieu sur les hommes, sur l'Église, sur l'univers. De comprendre cette providence, cette sagesse de Dieu, cette sagesse du Père qui gouverne tout. Rien n'est laissé au hasard, et tout est utilisé en vue d'un plus grand amour. Comme elle comprenait cette affirmation de Jésus, « Pas un cheveu de votre tête ne tombe sans que le Père Céleste le permette », elle le vivait cela, et dans sa vie elle comprenait que tout provenait directement du Père, ou une volonté expresse, ou une permission, où Dieu laissait Catherine avoir ses initiatives pour exprimer davantage son amour. Comme elle avait ce sens profond de l'ordre dans le monde, encore elle est bien fille de Thomas d'Aquin, comme elle avait le sens de cet ordre, et plus profondément le sens de l'ordre spirituel, divin, dans le cœur de l'homme, le mystère de la prédestination, ce mystère de notre filiation. Elle qui est si mère a tellement le sens, cette filiation à l'égard du Père, petit enfant bien-aimé du Père. Je crois qu'elle l'est d'une façon étonnante. Et c'est pour ça qu'elle aime tellement de s'abandonner à la providence, de s'abandonner à la miséricorde du Père. Elle a ce sens évangélique par excellence de l'abandon, la remise de tout entre les mains du Père. Se remet à lui. Oh, c'était pas du tout un abandon psychologique. Catherine de Sienne n'a rien d'un abandon psychologique. Elle est trop ardente. Elle est trop brûlante. Elle aime trop l'accomplissement de la volonté du Père. Et elle fait tout pour l'accomplir. Et elle le fait dans un esprit d'abandon. Elle le fait pour accomplir la volonté du Père, pour être pleinement sa petite enfant entre les mains du Père, et être vraiment entre les mains du Père, et l'être jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est un abandon divin. L'abandon divin, c'est cette volonté profonde qui doit prendre toute notre vie pour que notre volonté soit tout le temps remise à la volonté du Père, pour que nous n'ayons qu'un seul désir, accomplir la volonté du Père. Et je crois que c'est bien cela qui a fait l'unité toute sa vie, cette contemplative qui contemple avec tant d'amour le cœur blessé de Jésus. Contemplative passe des heures d'oraison, dans le silence et le don de tout elle-même. Cette contemplative qui a un cœur si pur, si limpide, pour écouter la parole de Jésus, la parole de l'époux, la parole de celui qu'elle aime. Cette contemplative est en même temps tellement donnée dans l'activité apostolique, quand il le faut. Tout son temps est donné aux autres. Quand l'Esprit Saint lui demande cette grande unité de sa vie entre les exigences de la contemplation et les exigences d'un don généreux d'une vie apostolique, ne peut se comprendre que dans cette soif qu'elle a d'être totalement abandonnée, elle n'a pas de plan, elle n'a pas de projet. Elle est remise entre les mains du Père, comme un petit instrument du Père. Elle est complètement abandonnée et elle se repose dans la blessure du cœur de Jésus. Elle se repose sur le cœur du Christ. Elle vit tous les battements de son cœur. Elle est totalement abandonnée pour accomplir pleinement, jusqu'au bout, cette volonté du Père. Qu'elle aime. Parce que c'est la volonté du Père. Non pas parce que c'est telle ou telle chose intéressante qu'elle aime à faire. Cette chose intelligente qui est de vivre du dialogue. Cette chose merveilleuse de se donner dans la miséricorde. C'est pas ça qu'elle regarde. C'est pas tellement le contenu de ce qu'elle fait qui l'intéresse. La manière de le faire. Dans l'obéissance, dans une obéissance qui doit aller jusqu'au bout, une obéissance, j'allais presque dire, qui est théologale. Alors, la vertu, elle sait bien que la vertu n'est pas théologale, mais l'obéissance pour elle n'a de sens que si elle est au service direct des vertus théologales. C'est dans ce sens-là que je peux dire que c'est une obéissance théologale. C'est une obéissance qui lui permet d'aller jusqu'au bout de la foi. C'est une obéissance qui lui permet de vivre vraiment de la foi. Parce qu'elle sait que l'obéissance implique cette remise de tout au bon plaisir du Père. Cette obéissance qui lui permet d'être si proche du bon plaisir du Père, lui donne une grande espérance. Cette cinquième oraison, prononcée dans l'extase qui suivit la communion le vendredi 18 février 1379. Ô Trinité éternelle et incompréhensible, ô ineffable amour, si vous m'appelez votre fille, je puis dire que vous êtes mon Père, Père éternel et souverain. Comme vous vous unissez vous-même à moi, dans la communion du corps et du sang de votre Fils bien-aimé, dans lequel vous vous donnez, Dieu et homme, tout entier, ainsi je vous demande, ô ineffable amour, de communier pareillement au corps mystique de la Sainte Église, ma mère, et au corps universel, de la religion chrétienne, car le feu de votre charité m'a fait goûter à quel point vous désirez que l'âme fasse ses délices de cette nourriture. Ô inconcevable amour, vous m'avez vu et connu en vous, et pour m'avoir ainsi regardé dans votre lumière, vous vous êtes épris de la beauté de votre créature. Par amour, vous l'avez tiré de vous-même, vous l'avez créé à votre image et ressemblance. Et moi cependant, votre créature, je ne vous connais pas, si ce n'est en contemplant en moi votre visage et votre ressemblance. Oh, que ne puis-je vous voir et vous connaître vous-même en moi, pour que tous nous ayons ou puissions avoir de vous une connaissance parfaite, Vous vous êtes unis à nous. Vous êtes descendus des hauteurs suprêmes de votre divinité jusqu'à la bassesse, jusqu'à la fange de notre humanité. La faiblesse de mon intelligence ne pouvait atteindre ni même entrevoir seulement votre grandeur. Pour que ma petitesse l'a pu saisir, vous vous êtes fait petit. Vous avez enfermé l'immensité de votre divinité dans la petitesse de notre humanité, et vous vous êtes manifesté à nous par votre Verbe, votre Fils unique. Ainsi ai-je connu vous-même en moi, ô abîme de charité. Oui, c'est ainsi, dans ce Verbe, ô insondable et éternelle Trinité, ô incompréhensible amour, que vous vous êtes manifesté, que vous nous avez révélé votre vérité et surtout par l'effusion de son sang. Nous y avons découvert votre puissance qui, dans ce sang, nous lavait de nos fautes. Et nous y avons vu votre sagesse qui a su, par l'amorce de notre humanité, recouvrant l'hameçon de votre divinité, capturer le démon et le dépouiller de la domination qu'il exerçait sur nous. Ce sang témoigne encore de votre charité. Il nous dit que c'est par amour, un amour de feu, et uniquement par amour, que vous nous avez rachetés, puisque vous n'avez nul besoin de nous. Ainsi est devenue évidente pour nous votre vérité, à savoir que c'est pour nous faire largesse de la vie éternelle que vous nous avez créée. Cette vérité, c'est par votre Verbe que votre créature l'a connue. Avant lui, elle était incapable de percevoir cette vérité. Son regard était obscurci, les ténèbres de la faute faisant voile devant elle. Rougis donc, ô créature, rougis d'être ainsi exaltée, d'être ainsi honorée par ton Dieu, et d'ignorer encore l'inappréciable amour de charité avec lequel ce Dieu est descendu des hauteurs de sa divinité jusqu'à la basse terre de ton humanité, pour que tu puisses le connaître lui-même en toi. J'ai péché, Seigneur, ayez pitié de moi. Ô merveilleux mystère, en vous, vous connaissiez votre créature avant qu'elle fût. Vous prévoyez qu'elle se rendrait coupable d'iniquité et qu'elle s'écarterait de votre vérité, et néanmoins, vous l'avez créée. Ô inconcevable amour, vous me dites, mon âme, je vous réponds, Père éternel, je vous en supplie, Père très miséricordieux, unissez-nous ainsi que tous vos serviteurs dans le feu de votre charité. Disposez-les à recevoir les prières et les enseignements que répand et veut répandre votre lumière et votre charité. C'est votre vérité qui a dit « Cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez, frappez et vous sera ouvert. » Eh bien, moi, si misérable, je frappe à la porte de votre vérité, je crie devant votre majesté, je m'adresse à votre clémence et je lui demande miséricorde pour le monde et en particulier pour la Sainte Église. C'est votre Verbe lui-même qui m'a appris que je devais me nourrir sans cesse de cette nourriture, si tel est votre bon plaisir, ne me laissez donc pas mourir de faim. Ô mon âme, que fais-tu? Ignores-tu que continuellement le Seigneur Dieu a les yeux sur toi? Sais-tu que tu ne saurais te dérober à son regard, à qui rien n'échappe? Au regard de la créature, tu peux bien te soustraire, oui, jamais à celui de Dieu. Mets donc fin à tes iniquités. C'en est assez, réveille-toi. J'ai péché, Seigneur, ayez pitié de moi. Il est temps de secouer le sommeil. Vous, Trinité éternelle, vous voulez vos créatures enfin se réveillent. Si la prospérité nous laisse à notre torpeur, vous envoyez l'adversité. Comme un bon médecin, vous portez le feu des tribulations dans les plaies que n'a pu guérir le baume des consolations et des joies. Ô Père éternel, ô charité incréée, je suis dans l'admiration d'avoir contemplé dans votre lumière. Eux, vous m'avez vu et connu, et toutes les créatures raisonnables ensemble, tant en général qu'en particulier, avant de nous donner l'être. Ainsi, vous avez vu le premier homme Adam. Vous avez connu pareillement la faute de sa désobéissance qui devait suivre. Vous l'avez connu en lui en particulier, et en général dans tout ce qui viendrait après lui. Vous saviez que la faute ferait obstacle à l'accomplissement de votre vérité. Et dans toutes les créatures raisonnables, qui dès lors ne pourraient plus atteindre la fin pour laquelle vous les avez créées, vous n'ignoriez pas, Père éternel, le châtiment qui devait s'abattre sur votre Fils pour restaurer en grâce la race humaine et accomplir en nous votre vérité. C'est votre lumière qui m'a fait connaître que vous aviez ainsi tout prévu. Comment donc, Père éternel, avez-vous pu produire cette créature qui est vôtre pourtant? J'en suis dans la stupeur. Et en vérité, il me faut bien reconnaître, comme vous me l'aviez démontré, que l'unique raison qui vous a déterminé, c'est que, dans votre lumière, vous vous êtes vu pressé par le feu de votre charité de lui donner l'être, nonobstant l'iniquité qu'elle devait commettre contre vous, Père éternel. Ainsi donc, vous n'avez pu résister à ce feu dévorant. Ô amour ineffable, dans votre lumière, vous voyez tous les crimes que votre créature devait perpétrer contre votre infinie bonté, et vous avez fait semblant de ne pas voir. Votre regard s'est arrêté obstinément sur la beauté de votre créature, dont vous étiez épris jusqu'à l'ivresse, jusqu'à la folie. Et par amour, vous l'avez tiré de votre sein en lui donnant l'être à votre image et ressemblance. C'est vous-même, vérité éternelle, qui m'avez appris cette vérité, votre vérité. C'est l'amour qui vous a fait nous créer, malgré la prévision que vous aviez de nos offenses. Votre charité n'a pas voulu que votre regard s'arrêtât à la considération de nos crimes. Elle l'a détourné de nos fautes futures pour le fixer sur la beauté de votre ouvrage, de peur que la vue prolongée de nos iniquités ne vous fît oublier l'amour qui vous poussait à créer l'homme. Vous ne les ignorez pas pourtant, mais vous vous obstinez dans l'amour, parce que vous n'êtes que foyer d'amour, parce que vous êtes fou de votre créature. Et moi, à cause de mes fautes, je ne vous ai jamais connu, mais accordez-moi la grâce, très doux amour, de verser tout le sang de mon corps pour l'honorer et la gloire de votre nom. Bénissez, Père éternel, celui qui m'a communié du précieux corps et du précieux sang de votre Fils. Dépouillez-le, détachez-le de lui-même, revêtez-le de votre éternelle volonté, unissez-le à vous par un indissoluble nœud. Qu'il soit comme une fleur embaumée dans le jardin de la Sainte Église. Accordez-nous, Père très miséricordieux, votre douce éternelle bénédiction, et dans le sang de votre Fils, lavez le visage de nos âmes. Amour, amour, je vous demande la mort,